Sort des ondes publiques, il bataille contre les conquistadors de la concurrence. Ça lui va bien comme décor, la cordillère des Andes, pour lutter contre la désinformation et Vianney. Alors, bien sûr, il n'est pas seul dans ses aventures. Esteban Nico est toujours accompagné de Sonia et Aline, qu'il surnomme avec tendresse Machu et Pichu.
C'est parti pour la matinale en or. Bonjour Nicolas Demorand.
Bonjour Mathilde Munoz. France Inter, 7h.
France Inter. Léa Salamé, Nicolas Demorand, le 7-10.
Mardi 30 avril, bonjour à tous et bienvenue sur Inter. Anaïs Feuga, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin, pas d'écran avant 3 ans.
La recommandation principale des experts qui remettent ce matin leur rapport au président de la République. On voit ça en détail dans un instant. Dans ce journal aussi, Arnaud Lagardère mis en examen pour abus de biens sociaux. Au Kenya, des inondations meurtrières à cause des pluies diluviennes des dernières semaines. Et puis 70 millions d'euros pour développer le foot féminin en France.
Et les invités d'Inter ce matin, 7h50, Sonia De Villers, bonjour.
Bonjour à tous. Eh bien, un an après le triomphe planétaire de Barbie, Ryan Gosling revient au cinéma avec The Fall Guy, une comédie bien déjantée et un hommage au métier de cascadeur. À 7h50, il nous parle de son chien et de Claude Lelouch.
À tout à l'heure, 8h20, le grand entretien de la matinale avec la ministre de l'Éducation nationale, Nicole Belloubet. 9h20, Léa Salamé reçoit l'humoriste Hakim Djemili.
France Inter.
Ce n'est rien de moins que l'avenir de notre société, de notre civilisation qui est en jeu. Les mots choisis parmi les 125 pages d'un épais rapport que des experts remettent aujourd'hui au président de la République sur les écrans et les enfants. Rapport commandé en janvier, dévoilé hier soir dans la presse quotidienne régionale. Il est co-présidé par la neurologue Servane Mouton et le chef de département addictologie de l'hôpital de Villejuif, Amine Benyamina. Bonjour Victor Vasseur.
Bonjour.
Et ces experts préconisent tout simplement d'interdire l'usage des écrans aux enfants de moins de 3 ans.
Oui, pour reprendre le contrôle de nos écrans, les experts appellent à empêcher tout usage des écrans par des enfants de moins de 3 ans. C'est une première étape, car ils recommandent ensuite, entre 3 et 6 ans, un accès fortement limité, avec des contenus spécifiques et surtout accompagnés par un adulte. Pour les ados et pré-ados, la commission propose de n'autoriser le téléphone portable qu'à partir de 11 ans, avec un téléphone sans internet. Entre 13 et 15 ans, le téléphone devra bloquer les accès à tous les réseaux sociaux. Il faudrait alors attendre la majorité avant de pouvoir utiliser TikTok, Instagram et Snapchat. Les experts recommandent que la mention ne convient pas au moins de 13 ans face à son apparition sur les smartphones. Pour acheter un téléphone et un forfait, ils préconisent la mise en place d'une déclaration de la date de naissance de l'utilisateur.
Et Victor, les experts se disent aussi bousculés parce qu'ils ont vu les stratégies de captation de l'attention des enfants.
Ouais, c'est pour cette raison que la commission demande de mettre un terme au mécanisme de fil de déroulement infini. Vous savez, comme sur TikTok où les vidéos peuvent défiler pendant des heures. Les experts proposent aussi de bannir les écrans dans les crèches et les classes maternelles. Reste à savoir comment le gouvernement va se saisir de ce rapport, car la mise en œuvre et le contrôle de certaines mesures paraissent compliquées à appliquer, comme l'interdiction des téléphones avec Internet avant 13 ans. Sur certains points, la France n'a pas la main et des solutions techniques ont du mal à émerger.
Merci Victor Vasseur. À Châteauroux, les réseaux sociaux ne semblent n'y être pour rien. Dans le meurtre d'un adolescent de 15 ans samedi, son agresseur présumé, même âge, a été mis en examen hier soir. Il est en prison. Selon les premiers témoignages, les deux garçons se connaissaient. Ils s'étaient réciproquement insultés et se seraient bagarrés. Pour se venger d'un coup de poing, le suspect serait revenu avec un couteau. Sa mère est également mise en examen pour avoir donné des gifles à la victime. Lui a quitté le tribunal de Paris hier en début de soirée après toute une journée passée à répondre aux enquêteurs. Arnaud Lagardère a été mis en examen pour abus de biens sociaux et abus de pouvoir. L'héritier de l'Empire Lagardère est soupçonné d'avoir puisé dans les comptes de ses sociétés pour financer son train de vie et ses dépenses personnelles pendant plus de 10 ans, Gaëlle Joly.
Pendant plusieurs années, Arnaud Lagardère s'est servi dans les comptes de ses sociétés pour financer son train de vie et ses dépenses personnelles, selon une source judiciaire. Le parquet national financier avait ouvert il y a 3 ans une enquête pour notamment diffusion d'informations fausses ou trompeuses, abus de biens sociaux et présentation de comptes inexacts, et ce d'après deux signalements, celui de l'autorité des marchés financiers et du Haut Conseil du Commissariat aux comptes, et une plainte d'un fonds d'investissement. L'héritier de 63 ans, longtemps à la tête du groupe fondé par son père, où se côtoyaient Paris Match, le journal du dimanche ou encore Europe 1, n'en est désormais plus qu'actionnaire minoritaire. Hier, il a été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction d'exercer des fonctions de direction et l'obligation de fournir une caution de 200 000 euros.
Gérard Depardieu devant un tribunal, l'acteur de 75 ans sera jugé pour la première fois en octobre pour agression sexuelle sur deux femmes lors du tournage des Volets Verts en 2021. Accusé par une décoratrice et une assistante réalisatrice pour des agressions et des outrages sexistes. Gérard Depardieu, par ailleurs, mis en examen pour viol depuis 2020 sur une jeune actrice dans cet autre dossier. L'enquête vient de se terminer. Le parquet doit maintenant rendre ses réquisitions et ensuite le magistrat instructeur ordonnera ou non un procès.
Il est 7h05. La qualité des cosmétiques s'améliore.
Oui, c'est une bonne nouvelle. En 6 ans, les substances dangereuses ont été divisées par 3 dans les produits cosmétiques. C'est ce que constate l'UFC Que Choisir qui publie son bilan ce matin. Il y a 6 ans, la moitié des produits de leur base de données contenaient des substances dangereuses. Il n'y en a plus que, ou il en reste encore, 15%. Mais c'est un progrès, estime Olivier Andreau, chargé des questions de santé à l'UFC Que Choisir.
Ça veut dire que les fabricants, lorsqu'on leur met la pression, eh bien, ils savent parfaitement se passer de ces substances indésirables. Cette bonne nouvelle, il faut quand même la moduler parce qu'il y a 3 catégories de produits cosmétiques sur lesquels il y a des points noirs. Tout d'abord, une crème solaire sur 4 qui est mal notée, donc notée rouge ou orange. On va trouver notamment des filtres UV, l'octocrylène qui peut se dégrader en composé toxique qu'on va trouver quand même sur des grandes marques telles que Vichy, Garnier, La Roche-Posay. On a aussi le rayon rouge à lèvres avec une référence sur 2 qui est mal notée parce que ces rouges à lèvres contiennent encore trop souvent des huiles minérales et qui peuvent s'accumuler dans les ganglions lymphatiques ou le foie et provoquer des réactions inflammatoires. Et là aussi, ce sont des grandes marques. Et alors là, beaucoup, hein, Yves Rocher, Sisley, Yves Saint Laurent, Sephora. Et puis, dernière catégorie, les teintures capillaires avec 2 produits sur 3 qui sont mal notés. Et on va trouver notamment du résorcinol, une substance colorante fortement sensibilisante, là encore, dans des produits de grandes marques.
Olivier Andreau de l'UFC Que Choisir avec Agnès Soubiran. Les salariés vont devoir, à partir de jeudi, payer de leur poche 100 euros pour suivre une formation via le compte personnel de formation et quel que soit le coût de cette formation. Jusqu'à présent, c'était gratuit, mais Bercy espère faire plus de 250 millions d'euros d'économies. Le décret a été publié au journal officiel. Les 130 000 automobilistes qui empruntent tous les jours l'autoroute A13 pour entrer ou sortir de Paris en direction de l'Ouest vont encore devoir prendre leur mal en patience. La portion fermée rouvrira le 11 mai, mais dans un premier temps uniquement dans le sens province-Paris et uniquement pour les véhicules légers.
Il est 7h07, un paysage d'apocalypse au Kenya.
Des arbres déracinés, des maisons emportées, des voitures englouties sous un torrent de boue et de pierre après qu'un barrage naturel a cédé sous l'effet des pluies diluviennes qui touchent le pays depuis plusieurs semaines. Il y a au moins 45 morts. Une tragédie de plus dans une saison des pluies cauchemardesque amplifiée par le réchauffement climatique et le phénomène El Niño et qui a déjà fait au moins 120 morts. À Mai Mahiu, à une centaine de kilomètres au nord de Nairobi, les berges ont donc cédé en pleine nuit, se déversant sur le village endormi. Reportage sur place de notre correspondante au Kenya, Alban Tiroir.
C'est une scène de désolation dans ce village près de Mai Mahiu, quelques heures après le sinistre où se trouvaient des maisons, des fermes. Il n'y a plus que des coulées de boue. Clément Otachiri vivait ici avec sa mère et son frère.
The noise, people screaming, are the one who...
J'ai été réveillé par le bruit et les voisins qui criaient. J'ai ouvert la porte et j'ai vu des vagues plus hautes qu'un camion. C'était impossible de sortir. Alors nous sommes montés sur le toit et c'est là que nous avons été secourus. Notre maison a été complètement emportée par les eaux. Mes poulets et mes chèvres aussi. Je n'avais jamais vu ça ici.
La Croix-Rouge kényane a installé un lieu d'accueil dans une école à proximité. Des victimes sont venues pour y trouver refuge, d'autres pour avoir des nouvelles de leurs proches portés disparus. Malgré la pluie, les recherches continuent, explique John Balou, secrétaire général adjoint de la Croix-Rouge kényane.
Nous ne pouvons pas utiliser de machines car les sols sont trop inondés, donc c'est un travail terriblement lent. Il faut fouiller parmi les débris avec les mains en longeant le lieu du sinistre.
À travers le Kenya, plus de 130 000 personnes ont été déplacées à cause des récentes pluies diluviennes selon les autorités et la rentrée scolaire qui devait avoir lieu hier a été repoussée à lundi prochain. De retour de Mai Mahiu, Alban Tiroir pour France Inter.
Dans le pays voisin de la Tanzanie, au moins 155 personnes sont mortes aussi dans des inondations ou des glissements de terrain. 96 000 personnes déplacées au Burundi à cause de ces pluies. Le Kenya, 6e producteur mondial d'avocats, ces fruits que les Français plébiscitent. 3 kilos par personne consommés chaque année en moyenne en France, alors que son bilan environnemental laisse à désirer. L'avocat produit à des milliers de kilomètres, gourmand en eau dans des régions asséchées. Alors pour rendre cet avocat plus responsable, une nouvelle filière est en train de se développer en Corse. Des milliers d'arbres y ont été plantés ces dernières années. Rencontre au sud de Bastia avec ces agriculteurs pionniers de l'or vert. Reportage William Delesseux.
Voisins des orangers en fleurs, les 3 hectares d'avocatiers d'Alexandra Luciani-Giamarchi, 1500 arbres en train de bourgeonner.
Par exemple, sur une branche, vous allez avoir 500 fleurs qui vont éclore.
Et potentiellement des dizaines de fruits à partir du mois de décembre. Les plants arrivent enfin à maturité.
Cette année, ce sera la première vraie commercialisation. Très confiante, même si c'est une nouvelle culture. L'arbre est sain, la plantation est homogène. Par la suite, ça fera des très beaux et très bons fruits.
Avant, ici, était à cultiver des pommes de terre, du maïs. Le père d'Alexandra, Sébastien Luciani-Giamarchi, fier de ce changement.
Et en plus, l'avantage que nous avons, nous ramassons aujourd'hui, en 48 heures, c'est sur les tables. Par rapport aux avocats qui viennent du Mexique ou du Kenya, ça n'a rien à voir.
Vous les avez goûtés, les avocats, ou pas?
Ah oui, c'est le top.
Et vu les prix, ce sera aussi rentable, assure le président de la Chambre d'agriculture de Haute-Corse, Joseph Colombani, à condition de respecter des limites.
Il ne s'agit pas d'avoir une monoculture ou de monopoliser toute la plaine orientale. Et pour la culture de l'avocat, comme toute l'eau qui tombe en Corse, qu'elle soit monopolisée par l'avocat. Non, ça non.
L'irrigation des cultures est indispensable. L'avocat demande par exemple 5 fois plus d'eau que les clémentines pour pouvoir être produit.
L'eau en crise mondiale à cause du changement climatique. Les pays du G7 réunis hier à Turin ont décidé de mettre en place une coalition pour trouver des solutions à la pollution, aux ressources en eau et aux inondations et sécheresses. La Terre a perdu 85% de ses zones humides au cours des 3 derniers siècles. Le G7 qui va aussi, selon le ministre français de l'écologie, s'attaquer à l'impact climatique de la mode et particulièrement de la fast fashion. 21h ce soir à Munich, la première demi-finale de la Ligue des champions de football. Le Bayern, 6 fois champion, reçoit le Real, sacré 14 fois un record. La Ligue féminine de football professionnelle française, elle a été officiellement présentée hier à Paris. Une Ligue pro qui sera pilotée par Jean-Michel Aulas et la Fédération française de football. 70 millions d'euros vont être investis sur 5 ans pour faire de la première ligue française le meilleur championnat d'Europe, mais aussi de créer tout un écosystème autour d'elle, comme l'explique Jean-Michel Aulas.
Cet écosystème, c'est avoir l'un des meilleurs championnats en termes de ligue professionnelle. C'est d'avoir des centres de formation qui alimentent en fait tous les autres championnats, et en priorité le nôtre. C'est faire en sorte d'attirer à un moment où toutes les grandes entreprises se posent des questions par rapport à leur image, un sport féminin et un football féminin qui soit une monnaie d'échange avec les plus grandes entreprises. C'est aussi créer les conditions pour avoir sur le plan des droits télé, tant en France qu'à l'étranger, avec la vente des images qui permet de faire en sorte de ne pas être dépendant d'un tiers demain.
Jean-Michel Aulas avec Julien Froment. Ce championnat passera de 12 à 14 clubs. Des play-offs, des matchs éliminatoires à l'issue de la saison ont été mis en place. Et puis les joueuses seront mieux payées et mieux protégées en cas de blessure ou de grossesse.
Merci Anaïs Feuga. Dans 3 minutes, c'est le Zoom. Aujourd'hui, le masculinisme en force sur les réseaux sociaux.
Et salut les matelots, je suis sûre que vous vous posez un tas de questions.
20h05, Camille Cronier.
Qu'est-ce que ça veut dire abracadabra ?
Ah oui, je vois que vous êtes très très curieux. Et bah ça tombe bien parce que dans les petits bateaux, on a plein de gens et même des savants.
Et là, ils sont avalés par les atomes.
Pour vous répondre.
Merci. Merci. Au revoir.
Les petits bateaux.
C'est tous les soirs sur France Inter, après les infos de 20h.
Et quand vous voulez, sur l'appli Radio France et franceinter.fr.
Il est 7h13.
France Inter. Nicolas Demorand. Le 7-10.
Alors que le président chinois est attendu en France la semaine prochaine pour une visite d'État qui célébrera 60 ans de relations diplomatiques entre les deux pays, 80 secondes ce matin sur le podcast que vous propose France Inter, consacré au prince rouge Xi Jinping. C'est Dominique André, grand reporter à la rédaction internationale de Radio France, qui fut correspondante à Pékin pendant 9 ans, qui vous propose cette biographie analytique du leader chinois ayant grandi dans le quartier de la nomenclatura de Pékin, un monde à part pour les familles et leurs enfants, dont le sinologue Jean-Philippe Béja décrit l'atmosphère.
C'est effectivement une vie qui est complètement isolée de l'ensemble de la population. Bien sûr, l'école se passe dans des écoles qui sont spéciales, et puis vous avez les approvisionnements spéciaux. C'est-à-dire que la nourriture, etc., tout ce qu'on achète, ça ne vient pas des des magasins normaux de la ville de Pékin. On a un approvisionnement spécial et dans ces conditions, on n'est pas du tout sensible aux diverses pénuries qui peuvent de temps en temps frapper l'ensemble du pays.
Donc Xi Jinping a eu une enfance protégée ?
Une enfance tout à fait privilégiée, effectivement, de prince rouge. Il est le fils d'un haut dirigeant. Et donc, à la maison, on a une servante, il y a des chauffeurs, etc. Donc, on ne se mélange pas avec les larges masses, bien évidemment.
Les 9 épisodes du podcast racontent l'ascension de Xi Jinping, l'évolution de sa pratique du pouvoir, son virage autoritaire, la catastrophe du Covid. Dominique André donne la parole à des diplomates, des spécialistes de la Chine, des Chinois qui osent encore parler dans un pays où il est très risqué de le faire. L'ensemble est passionnant et se termine par une question que bien des dirigeants dans le monde doivent se poser. Où va Xi Jinping ? Le Prince Rouge est à écouter sur l'application Radio France et Dominique André sera l'invité ce soir d'Un jour dans le monde à 18h15 sur Inter. Et voici maintenant le Zoom. Le mot masculinisme va faire son entrée dans le Petit Larousse 2025. Ce mouvement qui estime que l'homme souffre de l'émancipation des femmes, comme le définit le dictionnaire, est en plein essor sur les réseaux sociaux. TikTok, YouTube, Instagram regorge de ces contenus où conseils en séduction, musculation et développement personnel se mêlent à des propos anti-féministes et pro-patriarcat, tout en cumulant des millions de vues. Adrien Serrière, bonjour.
Bonjour.
En quelques clics, on plonge avec vous au cœur de la communauté masculiniste en ligne.
Il suffit de créer un compte TikTok, indiquer être un jeune homme de 20 ans et on tombe très vite sur ce type de contenu.
Chaque femme veut un mari fort. Chaque enfant veut un père fort. Autrement dit, être fort pour un homme n'est plus un choix, mais une obligation.
Il est devenu aujourd'hui presque illégal d'être masculin. Bientôt, vous n'aurez plus le droit de faire du sport, d'être riche, de vous cultiver, de manger des côtes de bœuf maturées de 75 jours.
Comme celle-ci, plus de 200 000 vidéos TikTok utilisent le mot dièse « mâle alpha ». Derrière ces comptes, on retrouve une immense majorité d'hommes, mais certaines femmes exploitent aussi ce créneau.
Évidemment qu'une femme devrait toujours respecter l'autorité de son mari.
La très politique Thaïs Descuffon,
ça vous va, ce matin ?
Ah oui, ça va. Oui. Bien, ouais.
Ex-porte-parole du mouvement d'extrême droite Génération Identitaire, aujourd'hui dissous, se fait l'ambassadrice de la pensée réactionnaire auprès de ses 200 000 abonnés YouTube.
Effectivement, je critique le féminisme, que j'estime être une idéologie mortifère et nocive pour le bon épanouissement entre les hommes et les femmes. Moi, ce que je pense aujourd'hui, c'est qu'on a plus que jamais besoin d'une virilité, après une virilité positive, bien sûr, alors qu'aujourd'hui, on complexe les hommes d'être ce qu'ils sont, quoi, de leurs instincts. On essaie de les faire devenir des femmes comme les autres, en leur disant d'épouser leurs émotions, d'être vulnérables, etc. Et je pense que les hommes sont en perte de repères masculins, donc ils sont un peu perdus, ouais.
Et ces jeunes hommes perdus peuvent avoir tendance, Adrien, à se radicaliser dans leur discours masculiniste.
Et chez ces hommes qui tiennent un discours rabaissant la femme, la radicalité se traduit parfois sur le plan judiciaire. L'exemple le plus connu, c'est celui d'Andrew Tate.
Si une femme sort avec un homme, elle lui appartient. C'est sa femme.
L'influenceur britannique aux 9 millions d'abonnés sur X est mis en cause dans une affaire de proxénétisme et de viol. Et il n'est pas le seul à passer du discours aux actes.
Il y a un cas qui est très intéressant, c'est celui de Michael Filetas.
La journaliste Pauline Ferrari a enquêté sur les milieux masculinistes.
Michael Filetas, c'est un coach en séduction qui n'avait pas énormément d'abonnés sur YouTube, mais qui faisait partie un peu de cet univers de coachs qui font des vidéos face cam pour expliquer pourquoi on vit dans une gynocratie. Et en janvier 2020, Michael Filetas, il a tué son ex-compagne Mélanie de 80 coups de couteau. C'est un peu le cas en France très connu de passage à l'acte violent de quelqu'un qui fait partie de ces communautés masculinistes. Mais après, il y a toute la question la question des féminicides, des violences conjugales, des violences sexuelles, à quel point certains hommes peuvent être influencés par le masculinisme. Ça, c'est une question à laquelle on ne peut pas avoir de réponse.
Pour de nombreux défenseurs des droits des femmes, il est donc urgent de lutter contre les contenus masculinistes, surtout que les plateformes ont au contraire tendance à les mettre en avant avec leurs algorithmes qui privilégient les contenus clivants. Avec le temps, d'autres masculinistes ont heureusement su prendre du recul. C'est le cas d'Arnaud, 34 ans, qui s'est replongé pour nous dans cette période, vers ses 20 ans, lorsqu'il en voulait aux femmes.
J'avais du mal à concevoir qu'on puisse être ami avec une fille, que ça puisse être autre chose qu'un objet de désir. J'étais très frustré dans ma vie parce que j'avais un handicap invisible, des troubles autistiques j'ignorais à cette époque-là, une famille dysfonctionnelle, et puis j'étais aussi un transfuge de classe, quoi. J'étais en école d'ingénieur alors que je venais d'un milieu où personne n'était diplômé. Donc tout ça faisait que j'étais pas du tout à ma place.
Embourbé pendant plusieurs années dans une misogynie qu'il reconnaît aujourd'hui, ce sont des rencontres de femmes qui ont changé sa façon de voir les choses.
D'une part, j'ai réussi à trouver donc des sœurs de substitution à qui vraiment j'arrivais à parler de mes émotions. Et en même temps, j'ai changé d'environnement et donc tout ça a été loin de moi. J'avais plus de raison d'être frustré vis-à-vis de tout ça, quoi. En plus, j'étais en couple, voilà. Donc j'avais réglé beaucoup de choses dans ma vie qui faisaient que j'étais plus frustré. C'est aussi ça qui fait qu'on sort de tout ça, quoi.
Père de deux jeunes garçons, Arnaud se dit aujourd'hui féministe, aux antipodes de l'homme qu'il était il y a 15 ans.
Merci Adrien Serrière pour ce reportage à retrouver en longueur sur franceinter.fr et en vidéo sur les réseaux sociaux de la chaîne.
Le 7-10 sur France Inter.
Il est 7h20 en toute subjectivité avec le directeur de la Fondation pour l'innovation politique, Dominique Régnier, bonjour.
Bonjour Nicolas Demorand.
Vous nous parlez ce matin, Dominique, de Jean-Luc Mélenchon à Sciences Po.
C'était le 22 avril dernier, Jean-Luc Mélenchon est venu à Sciences Po pour donner ce qu'il a appelé une conférence. Dès son entrée dans l'amphithéâtre, il est ovationné avant d'avoir prononcé le premier mot. De toute évidence, les étudiants présents ne sont pas tous venus pour assister à une conférence. En témoigne aussi l'appel scandé par une partie de l'auditoire à la fin de son discours « Union populaire, Union populaire », à la grande satisfaction de l'orateur qui leur répond « Ah, j'ai des amis ici ». Et en effet, les rares contradicteurs qui ont tenté de s'exprimer ont aussitôt été poussés vers la sortie, si bien que de leurs propos, nous n'avons pu entendre qu'une protestation étouffée. Mais cela n'a pas empêché Jean-Luc Mélenchon de déclarer ce soir-là, je cite, « Il n'y a pas de pensée possible autrement que par la liberté du contradictoire. Pas de contradictoire, pas de pensée, fin de citation. » Jean-Luc Mélenchon s'est pourtant adressé aux étudiants comme à ses militants. Il a beaucoup parlé du conflit israélo-palestinien, mais c'est dans le but d'appeler finalement à voter pour sa liste, je le cite, « Moi je vous dis cela pour que vous vous en rappeliez quand vous êtes enfermé dans l'isoloir avec un bulletin de vote. » Fin de citation.
Ouais, et en quoi, Dominique, cela pose-t-il un problème pour vous ?
En fait, il s'agit d'un meeting électoral et non d'une conférence comme annoncé. Un vrai meeting. Outre les personnes présentes dans l'amphithéâtre, Mélenchon s'adressait aussi au public en ligne. 11 000 internautes connectés selon les organisateurs. Le leader de la France insoumise a pu profiter de l'attention médiatique portée à Sciences Po depuis quelques semaines en raison d'une agitation à laquelle, d'ailleurs, LFI a pris une part majeure. L'opération est d'autant plus astucieuse que Sciences Po ne pourra plus recevoir dans les mêmes conditions les représentants des autres listes candidates aux européennes. Les cours sont maintenant terminés, les étudiants préparent leurs examens. En usurpant à Sciences Po le mot de conférence pour obtenir un meeting électoral, Jean-Luc Mélenchon a bénéficié d'un privilège, étant donné que l'on contraint radio et télévision à respecter, à la seconde près, vous en savez quelque chose, l'égalité du temps de parole entre les différents candidats. Le leader de la France insoumise a commencé son meeting en remerciant Sciences Po pour son hospitalité, mais cela n'a pas empêché, 4 jours plus tard, Rima Hassan, également candidate sur la liste de la France insoumise, de lancer sur Twitter un appel à bloquer Sciences Po, je la cite, « Venez tous et toutes à Sciences Po, l'heure est au soulèvement ». Et il faudra l'intervention des CRS pour rendre l'école à ces étudiants qui subissent cette situation et qui, pour la plupart, la condamnent. Si Sciences Po doit se soulever, c'est contre une telle instrumentalisation politique. C'est pour la liberté d'opinion et c'est pour le pluralisme des idées, sans lesquelles l'université court à sa perte.
Dominique Régnier, merci et à mardi prochain.
Le 7-10 sur France Inter.
Et bonjour Aline Fanoukoé.
Bonjour Nicolas, hola à tous.
Calypso Valois, chanteuse et compositrice française, est de retour avec un nouvel album Apocalypso en stéréo dans Musique Aline.
Apocalypso puise son nom dans le titre du film culte de Francis Ford Coppola, Apocalypse Now, sorti en 1979. La galaxie de la chanteuse fait aussi référence à son surnom, Apocalypse, à l'école primaire. Dans ce deuxième disque, l'artiste déploie son arsenal sans égarement, prête à livrer bataille à la loyale sur le terrain sentimental. Pour commencer, Nicolas, un gros coup de bambou, asséné par une guitare punk, des sonorités psychédéliques, un synthé qui claque, ou bien la caresse des cordes d'un violon, coup de cœur.
Direction l'enfer à un train d'enfer, de tes lilas saveurs, plus de mal que de peur. Bonheur dans le crime, pieds liés, poings armés. Bonheur dans le crime, ainsi ils s'aimaient.
L'envoûtante Calypso Valois poursuit avec Le Bonheur dans le crime, un titre emprunté à Barbet d'Orvelli, son écrivain fétiche, pour raconter une autre forme de déviance, à savoir son goût pour l'art de la guerre, développé ici en 10 chapitres avec les arrangements d'un maître en musique électronique, le talentueux monsieur Yuxek. Impitoyable, la magnétique guerrière entraîne son ennemi désemparé dans une inéluctable descente aux enfers avant une mise en garde ultime. Pas une des ruses de Calypso Valois pour mettre en pièce sa rivale, détruire mauvais souvenirs et haute trahison, plaisir jouissif partagé avec la clameur de la reine, Nicolas.
Et quelles sont les influences musicales de Calypso Valois?
Alors, premières amours, Nicolas, la musique classique qu'elle débute à 5 ans, puis Gainsbourg, Marvin Gaye et les Beatles français, ses propres parents, Ellie et Jacquenot, fer de lance de la synth pop dans les années 80.
Allez sans retour.
Liberté et en mouvement, Calypso Valois l'emporte à la française, le French Kiss, une arme de destruction massive. La danse, résultat, c'est gagnant-gagnant, Nicolas.
Et ben voilà, Apocalypso, voilà. L'album de Calypso Valois est déjà disponible. Elle sera en concert à Paris le 15 mai à la Boule Noire, le 19 à Saint-Brieuc et le 24 août à Montpellier. Merci Aline. Et puis cette annonce, chers auditeurs, France Inter vous invite au studio 104 de la Maison de la Radio et de la Musique le 7 mai pour un concert exclusif de Zao de Sagazan avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France.
Grandiose.
Voilà, grandiose événement présenté en direct par Laurent Goumard à partir de 20h. Si vous voulez y assister, vous pouvez vous inscrire dès 9h ce matin sur le site maison de la radio et de la musique.fr. La météo, Marie-Pierre Planchon à suivre.
Sur franceinter.fr, cliquez sur Le Coin des Enfants.
Un espace sans pub avec des histoires à écouter.
Une autre.
Des chansons et des découvertes pour les enfants de 4 à 12 ans.
C'est sur franceinter.fr.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros. Automobiles, utilitaires, poids lourds, engins agricoles, Euromaster, votre partenaire confiance depuis plus de 30 ans.
Et votre conseil ce matin, Marie-Pierre, ne pas oublier le parapluie.
Ah oui, à moins que vous aimiez être saucée, mais aujourd'hui et demain, la perturbation en fait d'hier se redresse et va fusionner avec une nouvelle perturbation demain qui arrive déjà d'Irlande et qui rentre ce matin par le Finistère, qui va gagner toute la Bretagne cet après-midi sous le vent. Et on va retrouver toute la journée les pluies d'hier qui vont arroser composée donc les régions de l'Occitanie avec de bons cumuls sur le Languedoc aux Cévennes en remontant vers le centre, l'Île-de-France, Hauts-de-France. Et cette zone va engendrer de l'instabilité même et des orages qui vont éclater cet après-midi de la région parisienne au centre, à la Bourgogne et à la vallée du Rhône. Et même sur les Pyrénées, il va neiger sur l'est du relief à 2000 mètres d'altitude comme sur les Alpes frontalières. Puis les régions de l'est, par contre, de l'Alsace à la Corse, vont garder un temps sec comme de la Nouvelle-Aquitaine à la Normandie. Mais sur l'est, ce sera un ciel laiteux dû toujours aux remontées des poussières du Sahara.
Et les températures sont contrastées.
Oui, matin comme après-midi, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. C'est descendu à 1 degré dans le Doubs à Pontarlier alors qu'on relève 19 à Aubagne. Il fait 12 à Paris, 7 à Bordeaux, 9 à Guéret cet après-midi. On sera encore au-dessus des normales, mais seulement 13 à Brest, 16 à Montpellier, 19 à Paris et 26 à Strasbourg.
Merci Marie-Pierre et bienvenue sur Inter, 7h30. Le journal Christelle Redière, bonjour.
Bonjour à tous. Gérard Depardieu devant la justice. L'acteur sera jugé pour la première fois en correctionnel en octobre pour agression sexuelle contre deux femmes sur le tournage d'un film. Des salaires 130 fois supérieurs au salaire médian de leurs entreprises, l'écart se creuse encore. L'ONG Oxfam épingle certains dirigeants du CAC 40. Dans ce journal aussi, l'Irlande qui veut refouler les migrants vers l'Angleterre. Cette question, le muguet nuit-il à la planète? Et oui, les défenseurs de l'environnement n'y voient pas qu'un porte-bonheur. Enfin, ils vont sortir leur gris-gris. Les joueurs du Bayern Munich reçoivent le Real Madrid en demi-finale aller de la Ligue des Champions. Et pour eux, c'est pas gagné.
Au micro de Sonia De Villers, aujourd'hui une star, l'acteur Ryan Gosling pour le film The Fall Guy, en salle demain.
France Inter.
C'est l'aboutissement d'une série de plaintes déposées au début de l'année et ce ne sera pas un rôle de composition pour Gérard Depardieu. L'acteur de 75 ans mis en cause par plusieurs femmes depuis 2018 dans le sillage de MeToo sera donc jugé pour la première fois en correctionnel au mois d'octobre. Hier, il s'est vu notifier sa convocation devant la justice à l'issue de sa garde à vue à Paris. Il était entendu après les plaintes de deux femmes sur le tournage du film Les Volets Verts en 2021. Ariane Grissel.
L'une de ces deux femmes était assistante réalisatrice sur le tournage. L'autre, décoratrice, toutes deux ont porté plainte au début de cette année. L'assistante réalisatrice décrit à nos confrères de Mediapart des attouchements à la poitrine et sur les fesses de la part de l'acteur à trois reprises. Gérard Depardieu finit par s'excuser, mais lui fait vivre, dit-elle, un calvaire sur le tournage. Tandis que sa collègue, décoratrice, détaille la force phénoménale de l'acteur qui la maintient. Il me pétrit le ventre, la taille en remontant jusqu'à mes seins. Geste accompagné, selon son récit, de mots extrêmement crus. Gérard Depardieu lui conteste les faits. Pendant sa garde à vue, il a été confronté à cette dernière plaignante, mais il n'était pas convoqué que pour ces deux plaintes. Une troisième femme l'accuse de gestes similaires sur un tournage, cette fois en 2014, celui du film Le magicien et les Siamois. Elle aussi a été confrontée à l'acteur ce lundi, mais les faits sont prescrits et ne pourront dans tous les cas pas être jugés. Elle peut en revanche venir témoigner à l'audience du mois d'octobre.
L'actrice Charlotte Arnoux avait-elle porté plainte pour viol et agression sexuelle en 2020? Le parquet de Paris a annoncé hier la fin des investigations. Il doit maintenant rendre ses réquisitions. Comme le symbole de la chute d'un empire industriel, Arnaud Lagardère a été mis en examen, notamment pour abus de biens sociaux et abus de pouvoir. L'homme d'affaires est soupçonné d'avoir fait financer son train de vie en puisant dans les fonds de ses sociétés. L'héritier du groupe fondé par son père, dont il a cédé peu à peu les activités, notamment au groupe Bolloré, a été placé sous contrôle judiciaire et il n'a plus le droit d'exercer des fonctions de direction.
Il est 7h33. Ces patrons-là sont rémunérés de façon légale.
Les patrons du CAC 40 ont gagné en 2022 en moyenne 130 fois plus que le salaire moyen dans leurs entreprises. Résultat de la dernière étude de l'ONG Oxfam qui dénonce des rémunérations stratosphériques. En tête de leur classement, celle du patron du groupe Téléperformance, leader mondial des centres d'appel. Il gagne 1453 fois le salaire moyen de ses salariés. Ce n'est qu'un exemple, mais c'est choquant pour Léa Guérin. Elle est chargée de plaidoyer Oxfam France.
C'est l'indécence de certaines rémunérations qui dépassent l'entendement. On a des rémunérations à hauteur de voire 33 millions d'euros et des salaires moyens extrêmement bas. C'est un sentiment général lié à l'inflation parce que on l'a bien vu, on a beau avoir des augmentations de salaire, on n'arrive toujours pas à finir les fins de mois. Beaucoup de Français n'arrivent pas à finir les fins de mois. On a même vu que la pauvreté avait augmenté en France. On atteint 14,5% de la population. C'est tout simplement pas normal d'avoir des rémunérations aussi élevées quand on a en France des Françaises et des Français qui n'arrive pas à boucler les fins de mois, tout simplement.
Léa Guérin, interrogée par Thomas Bonnet, l'ONG réclame l'instauration d'un salaire maximum qui représenterait 20 fois le salaire médian d'une entreprise. Plusieurs députés de gauche réfléchissent à des propositions de loi. À gauche, justement, la tête de liste du PS et de Place Publique, Raphaël Glucksmann, était en meeting hier soir à Grenoble, sur les terres de l'écologiste Éric Piolle, maire de la ville. Le candidat grimpe dans les sondages, commence à tutoyer la tête de liste Renaissance alors que les écologistes stagnent. Mais peut-il plaire aussi aux Verts ? Claire Flochel a posé la question hier soir.
Ils ne sont évidemment pas tous sous le charme de Raphaël Glucksmann. Pour Ali, militant écologiste grenoblois, ses discours sonnent creux.
Il ne prend pas de risque sur le fond, il ne prend pas de risque sur la forme non plus. Il pourrait dire des choses qui relèvent politiquement du macronisme, que ce serait pareil, quoi.
Jacques, lui, estime plutôt l'inverse. Il est venu voir Raphaël Glucksmann, par qui il est déjà bien convaincu.
L'écologie est importante, l'environnement est un sujet crucial, mais les écologistes ont une vision trop étriquée. D'ailleurs, ils le prouvent. Je ne suis pas très satisfait de la manière dont cette ville est gérée.
Ce n'est pas que les Verts ne doivent pas être aux commandes, c'est surtout qu'ils n'ont pas encore assez de poids, analyse Romane, 18 ans.
Je suis écologiste et c'est une cause qui est très importante pour moi, l'environnement. Après, c'est difficile, je trouve, de voter pour les écologistes dans ce type d'élection parce que c'est quand même un parti minoritaire. Du coup, j'ai toujours un peu le doute avec les montées des extrêmes, surtout l'extrême droite, de qu'est-ce qu'on vote ? Est-ce qu'on vote utile ? Est-ce qu'on vote pour ce qu'on croit ?
Il leur manque aussi une incarnation forte. La preuve avec Lise, 22 ans, qui se revendique écolo. Elle connaît Raphaël Glucksmann. Pas la tête de liste écologiste.
Je le connais lui, mais je connais pas l'autre dame.
Marie Toussaint ?
Marie Toussaint, exactement. Ça me dit rien, mais lui, il veut beaucoup parler de lui sur les réseaux sociaux. Et ça marche énormément chez les jeunes.
Raphaël Glucksmann, plutôt plébiscité ici, mais la volatilité de son électorat rend sa position encore fragile.
Et n'oubliez pas, si vous voulez voter le 9 juin pour les européennes, vous avez jusqu'à ce soir pour vous inscrire sur les listes électorales. Le Proche-Orient suspendu à la réponse du Hamas, réponse à une offre de trêve de plusieurs semaines, on évoque 40 jours dans la bande de Gaza, faite par Israël, associée à la libération d'otages des deux côtés. Depuis le début de la guerre le 7 octobre, seule une trêve d'une semaine avait été instaurée en novembre. Plusieurs centaines de migrants refoulés par la police hier soir dans deux gares de Calais. Ils essayaient de monter dans des trains pour rejoindre les plages et tenter ensuite la traversée vers l'Angleterre. Et outre-Manche, l'Irlande veut renvoyer les migrants vers le Royaume-Uni. Dublin estime que 80% des arrivées récentes d'étrangers en situation irrégulière se font via la frontière nord-irlandaise, donc le Royaume-Uni. Et le ton monte. Richard Place est le correspondant de France Inter à Londres.
Cette colère irlandaise ravit le gouvernement britannique. Elle est la parfaite illustration de ce que voulait Rishi Sunak quand il a fait voter la loi Rwanda la semaine dernière. Renvoyer des immigrés illégaux en Afrique pour dissuader les autres de venir au Royaume-Uni. Simon Martin, le Premier ministre irlandais, ne veut pas en rester là.
Je n'ai certainement pas l'intention de laisser la politique migratoire d'un autre pays nous affecter. Nous n'offrirons en aucun cas une échappatoire aux défis migratoires d'un autre, c'est très clair.
Il veut donc faire passer une nouvelle loi en urgence pour renvoyer ces visiteurs jugés indésirables chez les Britanniques. Hors de question, répond Londres, et sur ITV, le Premier ministre Rishi Sunak se fait un plaisir d'utiliser les mêmes arguments que l'Union européenne.
Ça ne m'intéresse pas. Nous n'allons pas accepter des retours de l'UE via l'Irlande alors que l'Europe n'accepte pas les renvois vers la France, d'où viennent les migrants illégaux. Bien sûr, nous n'allons pas faire ça.
Une réunion à Londres sur cette question précise entre ministres des deux pays était prévue hier. Elle a finalement été annulée officiellement à cause d'agendas incompatibles. Et Sunak maintient que le premier vol pour le Rwanda décollera au mois de juillet. Londres, Richard Place, France Inter.
Et le roi Charles III, lui, reprend ses activités ce mardi. Il commence par visiter un centre de lutte contre le cancer. Tout un symbole pour le monarque qui souffre de cette maladie et qui suit toujours un traitement.
Il est 7h38. Un porte-bonheur doit-il aussi être écologique ?
C'est la question que soulèvent certains cette année à la veille du 1er mai. Le muguet que vous allez acheter demain est produit en France, en particulier dans les pays de la Loire. Or, face au réchauffement climatique, il faut préserver l'eau et cette production n'a pas de fonction nourricière. Sarah Mansoura.
Alors que la pression sur la ressource en eau est forte dans ce territoire tourné vers la production maraîchère, le muguet bénéficie d'une dérogation préfectorale pour être arrosé au même titre que des jeunes plants. Une aberration pour Ronan L'Herbier, secrétaire de l'Union CGT du Sud-Loire, pas fâché à l'idée d'enterrer la tradition.
Et le muguet, c'est rien qu'une plante. Ça sert pas à nourrir la population, ça c'est certain. Et il nous semble qu'aujourd'hui, à un moment, il faudra choisir les usages de l'eau pour la population, pour le tourisme, pour l'agroalimentaire, pour le maraîchage, l'agriculture de proximité, nourricière. Après, la question du symbole, Pour l'instant, elle est accessoire. Hein.
Plus gros producteur parmi la douzaine qui subsiste en Loire-Atlantique, Charles Vinet cultive 40 des 150 hectares de muguet français. Il relativise.
Partie de comparaison, il y a 3 millions d'hectares de maïs irrigués.
Moins gourmand en eau que le maïs, le muguet s'arrose tout de même toute l'année. Mais Charles Vinet assure faire des efforts.
On a des sondes qui mesurent le taux d'humidité dans le terrain, donc on arrose que quand le terrain s'assèche. Toute la période de ce qu'on appelle de forçage pour amener le muguet au 1er mai, on met du goutte à goutte. Le goutte à goutte, on le fait que depuis 5 ou 6 ans. On essaye d'arroser au minimum, c'est bien aussi pour la culture.
Et l'enjeu économique reste important, le chiffre d'affaires annuel dégagé par la production du muguet varie entre 20 et 30 millions d'euros.
Et oui, puisque 60 millions de brins devraient être achetés demain. Enfin, il compte 20 étoiles à eux deux, 14 titres en Ligue des Champions pour le Real Madrid, 6 pour le Bayern Munich. Les Allemands reçoivent ce soir les Espagnols en demi-finale aller de la Coupe aux grandes oreilles. Le Bayern qui vient de laisser filer le titre de champion de Bundesliga ne part pas favori. Mais les supporters que vous avez rencontrés à Berlin, Sébastien Baer, ont la foi.
L'arrière-salle enfumée de ce café berlinois est depuis longtemps le lieu de rendez-vous des supporters du Bayern. C'est ici que Flo, 34 ans, qui porte la veste rouge et blanche du club, va suivre avec ses amis la rencontre face au Real.
On va gagner, 2 à 0. S'il remporte la Ligue des Champions, alors on oubliera tout le reste.
Ce qu'il faut oublier, c'est l'année compliquée du Bayern. Après 11 titres consécutifs de champion d'Allemagne, les Bavarois ont été devancés cette saison par le Bayer Leverkusen. Ne reste plus que la Ligue des Champions pour sauver la saison, dit Roland, supporter depuis 30 ans du Bayern.
Cette année a été chaotique. Il y avait toujours un problème. De l'agitation dans le club, des discussions sur l'entraîneur, des blessures. Et je m'attendais à ce que l'on soit éliminé rapidement en Ligue des Champions. Mais maintenant, le calme et la sérénité sont de retour. On peut donc aller loin en Ligue des Champions.
Ce soir, les supporters compteront sur un grand Harry Kane, l'attaquant anglais, auteur d'un doublé le week-end dernier contre Francfort et meilleur buteur du championnat et le joueur préféré d'André.
C'est un joueur qui fait la différence. Il est toujours au bon endroit, au bon moment. Et il est très adroit devant les buts. En plus, il a une bonne vue d'ensemble sur l'équipe. Il a aussi coûté très cher, donc il faut bien qu'il fasse son travail.
Le Bayern Munich a été sacré 6 fois champion d'Europe. S'il ne remporte pas la Ligue des Champions cette année, les Allemands termineront la saison sans aucun trophée pour la première fois depuis 2012. Berlin, Sébastien Baer, France Inter.
Coup d'envoi 21h et demain, c'est le PSG qui jouera sur une pelouse allemande, celle de Dortmund.
Merci Christelle Rebière. À suivre, Yael Gauz, Dominique Seux, Sonia De Villers.
France Inter, 11h, Nagui et Leïla Kadour.
Ce mardi, nous recevons Alex Lutz.
Et nous partirons sur les traces des œuvres d'art spoliées par les nazis dans le film Le Tableau Volé.
La bande originale, tous les jours 11h sur Inter.
France Inter lance l'École des Odyssées, un grand concours national de création de podcasts en partenariat avec Belin Éducation.
Vous êtes professeur de CM2 ? Alors embarquez vos élèves dans un projet pédagogique et ludique avec l'École des Odyssées. Choisissez un personnage haut en couleur et fabriquez votre odyssée tout au long de l'année. La classe gagnante enregistrera son histoire dans les studios de France Inter.
Inscrivez-vous dès maintenant sur franceinter.fr.
En route, mauvaise troupe !
Avec la MAE, le spécialiste de la protection de l'enfant et de la famille, numéro 1 de l'assurance scolaire.
Il est 7h42.
Le 7-10 sur France Inter.
L'édito politique, Yael Gauz, contrôler les écrans. Comment relever ce qui relève, comment réguler ce qui relève de la vie privée?
Alors c'est l'un des volets du réarmement civique prôné par Emmanuel Macron qui va enfin disposer, grâce au rapport d'experts remis cet après-midi, de données et de recommandations pour s'attaquer à ce fléau du temps passé, ou plutôt perdu, sur les écrans. Preuve que le sujet figure en haut de la pile. C'était l'une des rares annonces concrètes de son discours de la Sorbonne bis. La majorité numérique à 15 ans, partout en Europe, de même qu'on n'envoie pas son enfant dans la jungle, on le protège dans le virtuel. Il faut un ordre public démocratique numérique. Question de survie, disait jeudi le président.
Et est-ce convaincant ?
Il n'y a plus qu'à. Sachant que ça fait des années maintenant que les psychologues alertent, la première fois que l'Académie américaine de pédiatrie recommande de ne pas exposer les moins de 2 ans aux écrans, c'était en 1999. Quand est-ce que la France limite les programmes télé dédiés aux bébés ? En 2008. C'est toute une génération, la première née avec le smartphone, qui arrive à l'âge adulte sans avoir conscience, puisque c'est normal pour elle, des conséquences que peut avoir cet objet devenu une extension de soi-même. L'ado augmenté, ou plutôt diminué, les 7-19 ans passent 10 fois plus de temps sur écran qu'à lire des livres.
Et est-ce si grave, selon vous ?
Que mettons derrière ce mot valise, Nicolas ? Les écrans, ça peut être Wikipédia, Fortnite, un livre numérique, du porno, l'enseignement à distance quand on est confiné, ou scroller harceler mécaniquement sur les réseaux. Quand Emmanuel Macron dit que les émeutes, c'est la faute aux jeux vidéo, c'est un vieux poncif qui n'a jamais été prouvé. Ensuite, le politique devrait balayer devant sa porte. C'est fascinant de voir comment chacun cultive sa marque sur les réseaux. Côté pile, Gabriel Attal redoute une catastrophe éducative et sanitaire avec les écrans. Côté face, il débarque sur Biril, l'appli où, sans prévenir, il faut se prendre en photo pour ses abonnés. Sans oublier Volta, sa chienne, starifiée sur Instagram. Quant à Jordan Bardella, on le croise plus souvent sur TikTok qu'au Parlement européen. Du côté du législateur, la tentation est grande aussi de se faire mousser à coups de menton et de loi. Interdire les écrans avant 3 ans, d'accord, même le rapport remis à Emmanuel Macron le préconise. Mais avec quoi? Un policier derrière chaque assistante maternelle?
On vous sent dubitatif, hein?
La bonne échelle, c'est tout en haut et tout en bas. Je m'explique. Si le chinois TikTok a renoncé à l'addiction suprême avec son appli Lite, qui aurait consisté à gagner des euros en fonction du temps passé dessus, c'est parce que, dans la foulée du législateur américain, Bruxelles a sorti l'écrou, a commencé à menacer. Il faut contrôler celui qui produit l'appli, pas seulement celui qui la regarde. Et puis tout en bas, bah c'est vous, c'est moi. Plutôt que de les culpabiliser, donnons des clés aux parents. Comment se construit le cerveau de l'enfant? Pourquoi faut-il interagir avec lui? Récemment, une ministre encourageait les parents à fouiller dans les portables de leurs ados. Drôle de régulation. Il n'y a pas d'appli pour apprendre à se reparler, mais le dialogue en présentiel reste le meilleur kit de survie pour traverser la jungle et en sortir.
Yaël Elgoz, merci, et on se retrouve tout à l'heure 8h20 pour le grand entretien.
L'édito éco avec Banque Populaire. Engagée aux côtés de ceux qui entreprennent. Banque Populaire, partenaire premium de Paris 2024.
Dominique, cela fera exactement 20 ans demain que les ex-pays de l'Est sont entrés dans l'Union européenne.
Oui, et à quelques semaines d'un scrutin européen, il est utile de souligner que cette intégration est un succès. Le 1er mai 2004 a donc eu lieu le grand élargissement. La Pologne, la République tchèque, la Slovaquie, la Slovénie, la Hongrie et les 3 pays baltes ont rejoint l'Europe, 8 pays avec leurs 75 millions d'habitants. Souvenez-vous, ils ont été tous membres du pacte de Varsovie. Alors soyons concrets, en 20 ans, le produit intérieur brut par habitant a doublé en Pologne. Il talonne désormais celui de l'Espagne. Il a grimpé de 75% en Slovaquie et de 50% en Hongrie. Le député européen Bernard Guetta, que l'on connaît bien ici et qui a écrit des livres sur ces pays, compare le mode de vie à Varsovie ou Prague à celui des capitales du nord de l'Europe, avec notamment leur vélo omniprésent.
Et une information vous a frappé.
Ben oui, c'est le récent palmarès mondial du bonheur établi par l'ONU. On a beaucoup parlé de la 27e place française, qui n'est pas terrible. On a moins remarqué que c'est dans les ex-pays de l'Est que la satisfaction dans la vie, le bonheur, a le plus progressé ces dernières années et à tous âges, selon des sondages. Cette satisfaction est désormais pour les jeunes la même à l'ouest et à l'est du continent. Qui aurait parié ça en 2004? Eh bien, absolument personne. C'est donc, oui, une grande réussite. Et l'actualité récente en Pologne montre que sur le plan politique, l'alternance est possible.
Alors voilà, un bon bilan pour eux, mais pour nous maintenant.
Bon, c'est moins net. Au fil des ans et au total, l'Europe a versé 200 milliards d'euros à ces pays et les entreprises françaises profitent, certes, des marchés où elles sont présentes. La France est, par exemple, le 3e employeur en Pologne. Mais cela s'est accompagné de beaucoup de délocalisations pour bénéficier de coûts salariaux plus bas et en faire profiter les consommateurs ouest européens. Illustration, en 20 ans, les importations automobiles de l'Est ont été multipliées par 10. La Slovaquie s'est par exemple spécialisée dans les petites voitures électriques, tandis qu'en France, la production auto a littéralement chuté. Les Allemands ont été plus malins, ils ont conservé une partie de leurs usines tout en utilisant des sous-traitants à l'Est.
Enfin, une difficulté apparue récemment.
Effectivement, plusieurs pays d'Europe centrale et orientale sont des têtes de pont de la Chine et de la Russie. Le chinois Xi Jinping, qui sera en France les 6 et 7 mai, s'arrêtera ainsi en repartant en Serbie, qui n'est pas dans l'Europe mais le voudrait, et en Hongrie, qui est en Europe, deux pays très, très proche de la Russie, qui envahit l'Ukraine. L'Elysée a tenté d'éviter ces escales qui font mauvais genre et aurait voulu 2 vols directs Paris-Pékin du leader chinois. Eh bien, ça a été sans succès.
Dominique, merci.
France Inter, le Le 7-10.
Il est 7h48, Sonia De Villers. Vous deviez interviewer Ryan Gosling, mais...
Mais grève des contrôleurs aériens la semaine dernière. Son jet privé n'a pas pu décoller de Londres. Nous nous sommes donc parlé en visioconférence. Hi, Rania. Hi, hi, Ryan. Hi, Sonia. How are you? Bref. Ryan joue dans The Fall Guy, adaptation de L'Homme qui tombe à pic, la cultissime série qu'on regardait quand on était petit. L'acteur interprète Colt Sivers, cascadeur de cinéma qui doit résoudre une enquête pleine d'explosions et de méchants. Ryan Gosling, tout en sueur, en muscles, en égratignure et en brûlure, après le triomphe mondial de Barbie, nouveau film aussi parodique, mais beaucoup moins rose bonbon.
On vous écoute.
Bonjour Ryan Gosling.
Bonjour.
Vous avez deux petites filles. Vous dites que c'est leur regard à elles, sur Barbie et sur Ken, qui vous a poussé à accepter le rôle de Ken. Alors, qui est le petit garçon qui vous a poussé à accepter de jouer l'homme qui tombe à pic ?
Oh, it was little me.
Mais c'était moi.
C'est que quand vous étiez enfant au Canada, vous avez regardé l'homme qui tombe à pic à la télé ?
Vous savez, la série, elle ne passait pas au Canada. Et c'est peut-être une bonne chose parce que j'aurais voulu devenir cascadeur et pas comédien.
Donc, il y a de la comédie dans ce film. Il y a beaucoup de comédie et pas seulement. Le réalisateur David Leitch, c'est lui-même un cascadeur de métier. Il a été la doublure attitrée de Brad Pitt. Donc, c'est aussi un hommage à la profession.
Complètement. C'est une déclaration d'amour au métier de cascadeur avant tout. Et ce sont eux les véritables héros. Ils prennent des risques fous devant la caméra, mais derrière aussi. Ce sont vraiment des héros parce que ils prennent tous les coups pour les comédiens, ils se mettent en danger pour nous, et ils ne reçoivent aucune reconnaissance. C'est un boulot altruiste, ingrat même, assez souvent. Ce sont des gens très humbles, qui ne cherchent pas à être dans la lumière. Et pourtant, ils contribuent beaucoup au succès d'un film. Nos meilleurs souvenirs au cinéma ont souvent été réalisés par ces cascadeurs dont on ne connaît pas le nom. Le film est donc une déclaration d'amour pour eux et pour les équipes, à tous ces gens qui fabriquent les films. Je me suis toujours senti redevable envers les cascadeurs. Il y a même un petit peu de peine parce qu'ils interprètent le personnage eux aussi. On se partage le personnages. Ils sont aussi des interprètes. On est dans le même syndicat. Ils participent à la création du personnage et pourtant, ils ne sont pas sur le tapis rouge avec nous. Ils ne font pas les interviews avec nous. Ça ne m'a jamais semblé juste. Et c'est super de faire un film où ils sont à nos côtés devant la presse et pour recevoir les honneurs.
Et ils n'ont pas d'Oscar. Il n'y a pas de catégorie aux Oscars. C'est ça. C'est, vous militez, c'est le message du film.
Ils prennent plus de risques que quiconque parmi nous et ils ne reçoivent pas la même reconnaissance. Il faut que ça change. Et c'est très bien de pouvoir en parler en interview. Plus on en parle, plus l'absurdité de la situation sera évidente.
Et vous avez réalisé, vous avez voulu réaliser des cascades du film. Pourquoi ? Dont une très 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 spectaculaire, hein, où vous chutez de plusieurs étages.
Comme je joue un cascadeur, je me devais de réaliser quelques cascades. Je joue celui qui exécute les chutes, alors il fallait bien que je me lance. La cascade du début du film, c'est une de mes scènes préférées parmi tous les films que j'ai faits. C'est un très long plan séquence, parfaitement chorégraphié par David Leitch. Et il montre brillamment le propos même du film. Il souligne le travail complètement singulier du cascadeur à l'intérieur d'une équipe de cinéma. La caméra suit le cascadeur à travers le décor, c'est une journée de tournage comme les autres, il échange avec ses collègues, mais son job à lui, il est un peu spécial, il prend l'ascenseur jusqu'au 12e étage et de là-haut, on le balance dans le vide devant la caméra. Je savais ce que j'avais à faire, mais je suis sujet au vertige et j'ai mis des lunettes de soleil pour cacher la terreur dans mon regard. J'ai essayé de ne pas trembler quand j'ai levé le pouce en signe de hockey. C'était difficile de ne pas avoir l'air terrifié parce que j'étais tétanisé par mon vertige. Mais j'étais heureux d'avoir réalisé cette cascade parce que j'adore cette scène. C'est un début parfait.
Alors, c'est une histoire de cascade, c'est une histoire d'explosion, c'est une histoire de testostérone et de muscles. C'est pas seulement ça, c'est aussi l'histoire d'une femme qui veut devenir réalisatrice et qui veut réaliser un film à gros budget, un film d'action, un film de science-fiction. Comme il y en a encore si peu à Hollywood.
C'est
vrai.
You know, I think Emily's performance
et Emily
is one of my
en fait le plus beau personnage de cinéaste que j'ai vu au cinéma. C'est un portrait très complexe, très riche, très réaliste d'une réalisatrice.
Et c'est Emily Blunt. Hein.
On la voit être ambitieuse, elle tente des choses dangereuses même, et difficiles. Et puis c'est aussi une métaphore pour l'histoire d'amour. En vérité, on était tous très influencés par le film de Claude Lelouch, Un homme et une femme. Lelouch y avait déjà montré, c'est un de mes films préférés, cet équilibre entre l'histoire d'amour et les scènes d'action, ce couple qui essaie de se parler au milieu de l'effervescence d'un plateau de cinéma, les cascades réelles qu'il avait incluses déjà dans son film. On passait même la musique d'Un homme et une femme sur notre plateau pour trouver la bonne ambiance pour notre film.
Vous venez de dire que vous aimez passionnément les films de Claude Lelouch.
Oui, il a toujours eu beaucoup d'importance pour moi. Il m'a inspiré pour Drive. Il avait réalisé un court-métrage où une voiture traverse tout Paris à 6h du matin. Je crois que ça s'appelle C'était un rendez-vous. Et ça nous a beaucoup inspiré pour Drive. Un homme et une femme, c'est un de mes films préférés de tous les temps. Et quand j'ai lu le scénario, j'ai vu la possibilité d'essayer de retrouver cette magie.
Eh ben c'est génial parce que personne n'aurait retrouvé Claude Lelouch dans The Fall Guy. Et si je vous dis en français,
really, I think it's so obvious when you
c'est
see
vrai.
The film, you know,
c'est clair quand on voit le film. Mais oui, les montages d'eux sur le plateau.
You know, the real stunts,
les cascades réalisées en vrai.
It's such a brilliant movie.
C'est un film tellement génial.
Yeah, we were very inspired by.
Il nous a beaucoup inspirés.
Alors après cette folle année de Barbie Mania, comment passe-t-on du personnage de Ken à celui du cascadeur Colt Sivers en jouant la comédie des adieux?
Thank God for this movie.
Ce film a été divin. J'ai tellement adoré tourner Barbie. J'y ai retrouvé tout l'amour que je porte au cinéma. À quel point j'aime travailler pour le public qui a tellement bien accueilli le film, tout comme Oppenheimer. Les gens venaient au cinéma pour assister à une expérience commune, partagée. Pour les gens, c'était un grand événement. Et pour moi, tomber ensuite sur The Fall Guy, ça a été comme un cascadeur qui tombe sur un épais matelas après les hauteurs stratosphériques de Barbie. C'était le matelas parfait pour toucher le sol. Et puis ce film, il a tous ces éléments, il est conçu pour le public, il peut plaire à tout le monde.
Ryan Gosling, si je vous dis Jean-Claude, ça vous rappelle quelque chose? Pour que tout le monde comprenne, c'est un chien dressé à attaquer quand on lui parle français.
Jean-Claude, c'est un de mes personnages préférés dans le film. C'est très personnel, car Eva avait un chien nommé Hugo, un berger belge malinois.
Eva Mendes, votre épouse?
Il ne comprenait que le français. On devait lui donner des ordres en français. Il est mort depuis et il me manque terriblement. J'ai voulu lui rendre hommage dans ce film. Et j'ai écrit le personnage en pensant à lui.
D'accord. Et vous êtes capable de parler français aux chiens, mais vous êtes capable de parler français à d'autres gens qu'à des chiens?
Non, c'est un but de ma vie, mais j'en suis encore loin. Mais Jean-Claude comprenait des ordres très spécifiques. Hein. Il était bilingue.
His kill commands were
non, mais ses ordres qu'il comprenait étaient en français.
Ouais. Mais quand même, vous avez grandi au Canada, donc vous avez été au contact de la langue française. Il vous en reste quelque chose?
Un petit peu. J'ai grandi dans une région anglophone du Canada, près de la frontière entre le Québec et l'Ontario. Mais il y avait là-bas une sorte de bataille linguistique. Et moi, j'ai grandi du côté anglophone, malheureusement. J'aurais adoré pouvoir vous parler en français aujourd'hui, je devrais.
Merci beaucoup, Ryan Gosling.
Merci de m'avoir invité.
Salut.
Merci.
Et merci, Sonia De Villers. Merci également à Harold Manning pour la traduction. Il est 7h58.
France Inter.
Lui estime que c'est bien joli de rendre hommage aux cascadeurs, mais que c'est encore mieux de leur donner la parole. On accueille justement Sonia, la doublure de Ryan Gosling, qui était votre invitée.
Eh oui, merci de m'accueillir. Alors je sais, je vois vos regards émerveillés qui vont de mes muscles à ma tête, de ma tête à mes muscles. La ressemblance est troublante. Bon, I know. D'ailleurs, dans la rue, les gens me demandent souvent « Ah, vous êtes Ryan Gosling ?» Non, que je leur réponds. Je suis Ryan Grossstring. New York, Los Angeles, ici les Moulineaux. Avec moi, pas de problème de grève des aiguilles du ciel, je me déplace en RER. Doublure cascade de Ryan, c'est vrai, sur The Fall Guy et aussi sur Barbie, la scène où il doit sauter dans une vague en plastique, c'est Bibi. Globalement, sur un plateau, dès qu'un type payé très cher a perdu ses baloches, « Oh, c'est haut, ça fait peur, elles sont où mes baloches ?» et refuse de tourner une scène un peu technique, c'est moi qu'on appelle. Rendre possible l'impossible, c'est mon job. Quand le spectateur doit croire que François Civil s'est monté à cheval, que Depardieu n'est pas bourré, ou que Yael Gauze est capable d'atteindre la cafetière de l'Open Space sans monter sur un escabeau, I am the man. Un jour ou l'autre, on a tous besoin d'une doublure cascade. Exemple, un jour, votre copain Dominique Seux devait écrire un édito en faveur de la transition énergétique. Ouais, il avait perdu un pari avec un pote du Rotary. Bon, pour ce qui est de l'écrire, il l'a fait, mais quand il a fallu le lire à l'antenne, au dernier moment, il s'est dégonflé.
Il s'en est tiré avec le « quoi qu'il en coûte ». Et j'ai du mal à retrouver ma feuille.
C'est con, vous m'auriez appelé, je l'aurais lu moi votre chronique. Jouer un mec de droite qui tient des propos de gauche, ça me connaît, diraient mes détracteurs. D'ailleurs, ce matin, je remplace votre collègue Mathieu Noël, là, le grand Suisse mou à la voix de canard qui manque un jour sur deux parce qu'il a un rhume. Ah, lui aussi, on se demande où elles sont passées ces baloches. À moins que... Ah mais oui, magie du déguisement. Regardez-moi ça. Regardez Nicolas, j'enlève mes lunettes et...
C'est proprement stupéfiant.
Et oui, c'est moi, Mathieu. Vous pensiez quand même pas que Sonia avait réussi à avoir la doublure de Ryan Gosling, déjà qu'elle a tout juste réussi à avoir plus ou moins Ryan Gosling lui-même. Alors Sonia,